tout autre chose.
Nous sommes le lundi 7 mai, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans l'émission Tout Autre Chose. Nous allons être ensemble jusqu'à 11h30. Courage et patience si vous êtes sur les routes en ce moment et que vous êtes pris dans les embouteillages. Il n'a pas plu depuis un mois, il faut bien quand même s'en rendre compte. Les chaussées sont donc très grasses et donc très glissantes. Adaptez bien votre vitesse et surtout les distances entre les véhicules. Nous allons vous accompagner et essayer de vous distraire un tout petit peu jusqu'à 11h30 pour parler de céphalées, je ne sais pas si parler de migraines et de maux de tête, ça va vous distraire, mais peut-être êtes-vous justement en train de subir une migraine, une céphalée, des maux de tête dans votre véhicule, tant vous attendez, vous vous énervez depuis un moment, et bien nous allons en parler dans cette émission jusqu'à 11h30. Plus sérieusement, nous allons parler aussi de ce phénomène handicapant pour certains, tant il est présent dans leur vie, et surtout tant les causes, les traitements et le diagnostic sont parfois des choses peu évidentes. Nous allons en parler également avec vos interventions, comme d'habitude, vous pouvez nous appeler au 02 737 26 06 02 737 26 06, ou par courriel toutautrechose@rtbf.be, tout autre chose écrit en un seul mot, ou par message SMS au 30 51, 50 centimes le message. Nous répondrons à vos questions, vous pouvez apporter témoignage également si vous vivez cela au quotidien, vous avez réglé vos problèmes, et bien n'hésitez pas à nous expliquer comment, quelle méthode vous avez utilisée. Nous en parlerons dans cette émission avec nos invités. Les céphalées, migraines et autres maux de tête, notre sujet du jour. Et je vous présente mes invités juste après ceci. Have you ever been alone? Where the wind runs, skips and moans. And a man comes in your way, telling you it's time to pray. Everybody's got illusions. Everybody talks so tall. Everybody draws conclusions, but they make no sense at all. Everybody's got a reason to be there when they're down on their luck, losing the will to survive. Everybody draws conclusions, but they make no sense at all. Everybody's got a reason to be there when they're down on their luck, losing the will to survive, boy. Have you ever drunk their wine, stolen diamonds from the blind? Then a man comes écoutez sur la première, Finally Brown avec Losing the Will to Survive. Il est 10h13. Vous êtes à l'écoute de la première et c'est tant mieux jusqu'à 11h30. C'est tout autre chose. Et nous allons parler de migraines, céphalées et de maux de tête dans cette émission en essayant de faire un petit peu la part des choses aussi, mais avec votre concours surtout au 02 737 26 06 ou par courriel toutautrechose@rtbf.be. Tout autre chose écrit en un seul mot. Vous pouvez également nous poser des questions ou apporter votre témoignage en nous envoyant un petit message par SMS au 30 51 50 centimes le message. Pour parler de ce sujet, je reçois en studio le docteur Catherine Gillien. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes neurologue, vous allez donc pouvoir nous expliquer un petit peu les différents termes que nous utilisons aujourd'hui et surtout leurs différences. Nous allons parler diagnostic, traitement avec vous aussi, essayer de comprendre ce qu'il se passe dans la tête justement. Françoise Lefebvre-Brassine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Ligue belge contre les céphalées. Nous allons avec vous parler du quotidien des personnes qui souffrent de céphalées et de migraines. Nous en parlerons également avec les auditeurs, comme je le disais. Mais tout d'abord, Docteur Gillien, quand on parle de migraines, de maux de tête, de céphalées, d'algie, etc., on ne parle pas de la même chose.
Non, effectivement, pas du tout. Et ça, c'est ça qui est très important, c'est d'apprendre à faire la différence, parce qu'il y a un amalgame dans la population, mais aussi parfois chez certains corps médicaux qui peuvent poser problème. Alors, pourquoi c'est important d'être précis? Parce que les traitements vont être beaucoup plus spécifiques et la recherche va mener à des traitements qui vont encore améliorer le vécu des patients. Mmh. C'est tellement important qu'il y a en 88 la réunion de spécialistes de céphalées, spécialistes internationaux, a édité une liste de critères qui ne reprend pas moins de 13 céphalées différentes, dont les critères cliniques sont extrêmement bien précisés et qui permettent d'approcher au maximum un diagnostic chez le patient. Donc, parmi ces 13 céphalées, une seule seulement est la migraine, et c'est important aussi de le reconnaître, même si elle est quand même très fréquente dans la population générale. Sans vouloir faire de liste exhaustive, je voudrais quand même insister là-dessus. Au niveau des céphalées, donc céphalées, ça veut dire, on devrait dire en fait céphalalgie, douleur à la tête. Okay. Au niveau des céphalées, il y a les céphalées dites primaires, c'est-à-dire pour lesquelles on ne trouve pas de cause organique sous-jacente. Et il y a les céphalées secondaires qui sont dues à une cause organique sous-jacente. Mmh. Parmi les céphalées secondaires, il est important de citer des choses qui peuvent être bénignes et faciles à traiter, comme des troubles métaboliques, des troubles hormonaux, de thyroïde, une simple anémie. Ce sont aussi des causes extérieures, par exemple un glaucome, une sinusite, des choses comme ça peuvent entraîner des céphalées récurrentes. Et c'est aussi la raison pour laquelle la céphalée mérite une approche multidisciplinaire. Mmh. Ça intéresse le généraliste, le neurologue, mais aussi l'ORL, l'ophtalmologue, l'endocrinologue, le gynécologue, le pédiatre. Tout ça, c'est vraiment important que tout le monde soit au courant. Mmh. Alors, parmi les céphalées dites primaires, donc sans cause sous-jacente connue, il y a les migraines qui restent les plus fréquentes. Il y a aussi les céphalées dites de tension, non pas tension artérielle, mais tension nerveuse, tension musculaire. Et il y a les algies vasculaires de la face et puis quelques rares céphalées bénignes du genre de la céphalée de la crème à la glace quand on mange une...
Voilà. On fronce tout
à fait, ça fait une douleur typique. Ça passe aussi par des mécanismes du nerf sensitif, le trijumeau, dont on va certainement parler après. Mais ça, c'est vraiment important de comprendre et que le patient doit consulter pour qu'on puisse déterminer quel est son profil personnel, de quel type de céphalée il souffre et comment on va arriver à l'aider. C'est essentiel.
Mmh. Vous disiez que même dans les corps médicaux aujourd'hui, on trouve quand même encore des médecins qui ont du mal aussi à percevoir. On peut les comprendre, on ne peut pas non plus connaître toutes les spécialités, mais est-ce qu'il existe des avancées en la matière aujourd'hui? Parce que on sait que ce qui se passe dans la tête est un petit peu mieux connu grâce à l'imagerie médicale aujourd'hui. Est-ce que en termes de migraines, de céphalées, pour utiliser plutôt le terme général, on a fait des avancées aussi.
Oui, mais justement, dans la migraine, en fait, tous les examens paracliniques, dont l'imagerie, restent normaux, rigoureusement normaux. Ça fait partie des critères. Le patient est en bonne santé par ailleurs. Donc, ça reste un diagnostic clinique. Et donc, il faut vraiment le connaître et pouvoir poser les bonnes questions. Maintenant, je pense que la migraine souffre aussi d'une réputation qui n'a pas été bonne pendant des années. Peut-être parce que c'est une prépondérance féminine, qu'il y a très fréquemment des migraines certaines aux règles et que pendant tout un temps, elle a été un petit peu considérée comme une somatisation hystérique. Et il faut savoir que les études rapportent à peu près 44% des migraineux qui ne consultent pas, ce qui est énorme. Et ils ne consultent pas pourquoi ? D'une part, parce qu'eux-mêmes estiment que ce n'est pas une maladie, que ça ne vaut pas la peine. Et d'autre part, parce qu'ils ont peur qu'on les prenne de façon un petit peu ridicule. Et aussi parce que beaucoup restent encore convaincus qu'il n'y a pas grand-chose à faire.
Mais ils ne savent peut-être pas non plus vers qui se tourner.
Oui,
exactement.
Tout à fait. Et malheureusement, c'est vrai que certains médecins de tout horizon, je ne vise personne, mais restent encore un petit peu dans cette idée qu'il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai déjà reçu des patients chez qui les médecins leur avaient dit prenez un motilium, donc un anti-vomissement, et ça passera, madame. Donc, je crois qu'il y a une information quand même, heureusement, grâce aux médias aussi d'ailleurs, qui passe de mieux en mieux, tant dans les revues qu'au niveau des radios, de la télévision. Le fait aussi qu'on ait fait des avancées assez extraordinaires dans le traitement de la migraine a permis de mieux comprendre le mécanisme et de faire accepter par tout le monde qu'il s'agit d'une réelle pathologie. Et donc, heureusement, c'est vrai que les choses évoluent. C'est vrai que les choses évoluent.
Alors, vous parliez donc de ces trois types de céphalées dont on va essayer de parler aussi dans cette émission aujourd'hui. On parle du patient qui est quand même en souffrance, les patients qui ne consultent pas. Vous avez dit aussi que beaucoup de femmes, est-ce que c'est un profil, effectivement, du patient atteint de céphalée? Ce sont plus souvent des femmes ou est-ce que c'est simplement parce que les hommes ne consultent pas, comme vous le disiez?
Si vous parlez de céphalée, c'est pas un profil. Si vous parlez de migraine, oui.
Oui.
Donc faisons déjà la différence.
D'accord. Donc les migraines, c'est plutôt les femmes.
Alors les migraines ont, après la puberté, une prédominance nettement féminine. Le rapport est à peu près 4 femmes pour un homme, mais pas avant la puberté. D'où le rôle d'hormones dont on parlera sûrement plus tard. Avec, comme je le disais tout à l'heure, aussi une grande fréquence de migraines au moment des règles. Donc il y a un lien hormonal évident. Donc c'est vrai que cette prépondérance... beaucoup d'hommes ont, je pense, hésité tout un temps à consulter quand ils avaient des migraines, et puis ne pensant pas avoir une pathologie de femme, hein. Bêtement. Mais
en se disant, effectivement, moi, j'ai pas les mêmes hormones.
C'est pas les mêmes hormones, mais l'expérience montre que les migraines chez les hommes sont très invalidantes, par contre.
Plus que chez les femmes?
Oui, très souvent.
Ah. On en pourra peut-être en parler avec Mme Lefebvre, d'ailleurs, qui est une femme et qui, en plus, elle est... Vous êtes migraineuse, hein, c'est ça?
Je suis migraineuse, effectivement, depuis l'âge de la puberté.
Depuis l'âge de la puberté?
De la puberté. J'ai cru qu'avec, vers l'âge de 50 ans, ça allait un peu diminuer, mais malheureusement, le fond migraineux était là, et puis l'arthrose cervicale s'installant, les migraines sont toujours là. J'ai essayé énormément de choses, de traitements de fond. Mais il y a heureusement depuis 10 ans une révolution dans les triptans qui fait que ça aide beaucoup.
Les triptans, on va y revenir. Oui, hein, mais oui. Vous me disiez aussi, vous aussi, docteur, vous êtes migraineuse, c'est ça?
C'est assez marrant, mais il y a une très grande prépondérance de migraineux chez les neurologues. Peut-être, je ne vais pas dire qui choisit pourquoi.
Et tout et dans tout, il n'y a peut-être pas de hasard.
Voilà.
Quand on parle de ces migraines qui sont handicapantes, on reviendra sur le quotidien des personnes atteintes de migraines et qui doivent vivre avec ça tous les jours. Mais j'imagine qu'on a dû vous le dire aussi, c'est hormonal, c'est parce que vous avez vos règles, ça passera avec les règles.
Tout à fait. J'ai d'abord été chez un gynécologue en me disant il va me donner des hormones. Les hormones n'ont servi à rien. Mais bon, tant qu'on a une migraine par mois... Ça va. C'est tout à fait vivable.
C'est un discours qu'on entend régulièrement, docteur Gillin. Est-ce que c'est un bon discours? Puisque, bon, d'une certaine façon, vous le dites quand même, c'est lié aux hormones, mais c'est quand même ce que beaucoup de médecins disent aux femmes qui viennent les trouver en disant « j'ai des migraines, docteur ».
Tout à fait, malheureusement. Mais dire « c'est lié aux hormones », non. C'est favorisé par les hormones, mais c'est lié à plusieurs autres choses aussi, et ça peut ne pas être lié aux hormones. C'est un des facteurs, et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que finalement, les neurologues sont pratiquement consultés en dernière intention dans les pathologies migraineuses. Les gens vont chez le gynéco, chez l'ophtalmologue parce qu'ils ont mal à l'œil, ils vont chez l'ORL parce qu'ils ont l'impression d'avoir le nez bouché, ce qui fait partie des symptômes de la migraine. Donc je crois que d'une manière générale, il faut peut-être reprendre correctement la définition de chacune des céphalées, dont la migraine, et que chaque médecin soit informé de son rôle à jouer. Parce que c'est vrai aussi que une crise de glaucome peut mimer une migraine. Donc, le neurologue aussi doit être attentif à ça. Mmh. Autant l'ophtalmologue doit être attentif quand il reçoit son patient. Donc, on doit chacun être informé de tout ce qui peut provoquer, mimer ce type de douleur.
D'autant qu'il ne se passe pas la même chose dans la tête s'il s'agit d'une céphalée de tension, d'une migraine ou d'une algie. Ça, il ne se passe pas, se produit pas la même chose. Si on prend le cas de la migraine, par exemple, que se passe-t-il dans la tête ?
Alors, dans la migraine, justement, les critères qui définissent la migraine sont des critères essentiellement cliniques et qui sont des critères de, je dirais, localisation surtout, enfin de caractéristiques propres et de durée. Cette classification internationale demande, c'est d'une part qu'il s'agisse de crises entre lesquelles le patient est en bonne santé. Je veux dire, sans cause expliquant les migraines. On peut être migraineux et avoir autre chose, d'accord. Mais ce sont des crises d'installation qui ne doivent pas être aiguës, même si elles peuvent être rapides. La différence est quand même sur quelques heures. C'est une crise qui dure en général de 4 à 72 heures, qui doit avoir au moins deux des caractéristiques suivantes, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un caractère unilatérale, mais elle ne l'est pas toujours. Elle doit le plus souvent avoir un caractère battant, dit pulsatile dans notre jargon.
Donc, sur les pulsations du cœur, c'est ça ?
Oui, c'est l'impression qu'on a un cœur dans la tête, mais ce n'est pas toujours non plus. Il doit y avoir une majoration par l'effort physique, ne fût-ce que monter un escalier ou porter un bac de bouteilles, par exemple, bouger la tête. Et il doit avoir aussi une intensité qui est quand même modérée à sévère le plus souvent, c'est-à-dire que le patient a une altération de ses activités en cours. C'est très rare qu'il puisse continuer sans problème ce qu'il est en train de faire. Et puis, avec ceci, on demande qu'il y ait au moins un des deux critères qui sont des nausées, voire des vomissements, et ce qu'on appelle de la photophobie, c'est-à-dire une intolérance à la lumière, et la phonophobie, c'est-à-dire une intolérance au bruit. Et il y a aussi encore, parfois, une intolérance à certaines odeurs. Donc ça, ce sont les critères de cette société internationale qui permettent de poser le diagnostic. Alors, il faut aussi qu'un patient fasse 5 fois ce type de crise. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous migraineux potentiels. Tout cerveau peut un jour en être victime, si vous voulez, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on va développer la maladie migraineuse pour autant. Il semble qu'il existe une propension génétique à être migraineux et qu'il y a une espèce de seuil génétique à partir duquel on le fait plus facilement et que ce seuil est abaissé chez certains patients.
Mm-hmm. Donc, dans les fréquences, parce que vous parlez d'une répétition, est-ce que c'est une fréquence absolue, est-ce que c'est une fréquence régulière ou on pourrait avoir le premier du mois de janvier une migraine et puis 6 mois après un autre épisode?
Alors la fréquence peut être très variable chez un même individu et est très variable chez tous les migraineux. Mmh. Ça peut aller de quelques crises par an à plusieurs crises par semaine, donc vous voyez que c'est extrêmement variable. Mais il y a quand même 30% des migraineux qui souffrent d'une crise par mois, ce qui est beaucoup, et il y a 10% qui en ont au moins 3 par semaine, ce qui est quand même assez énorme, avec 2/3 des patients qui sont invalidés, voire alités.
Vous parlez aussi d'une durée de 4 à 72 heures pour un épisode. C'est sans prise de médicaments, j'imagine.
C'est sans prise de médicaments par rapport aux critères définis, effectivement, avec la prise d'un médicament. Mais ça ne peut pas dépasser. Si ça dépasse 72 heures, on est dans un autre type de migraine.
C'est-à-dire qu'on attend rarement 72 heures avant de prendre un médicament quand on en a mal à la tête.
Oui, mais là, ça peut mener à quelque chose dont on parlera plus tard. Ça s'appelle les céphalées auto-induites, c'est-à-dire que la consommation trop régulière des médicaments peut provoquer les céphalées, alors on est dans un engrenage terrible.
Là, on ne parle encore que des migraines,
oui.
Quand on en parle. Quand vous parlez d'algie vasculaire, est-ce qu'il se passe la même chose ?
Non. Dans l'algie vasculaire de la face, d'abord, la douleur est localisée non pas au niveau du cuir chevelu, du crâne, mais au niveau du visage. Et c'est une douleur d'installation beaucoup plus rapide et de durée beaucoup plus brève. Elle dépasse en général pas 3 heures. Elle est d'intensité nettement plus importante. Et alors, elle a une caractéristique, c'est qu'elle récidive très rapidement. On appelle ça d'ailleurs en anglais les cluster headaches. Ça veut dire des céphalées en grappe. Et le patient en est victime de plusieurs par jour pendant plusieurs jours. Et puis peut en être libre pendant des mois. Et là, par contre, c'est une prépondérance masculine et non pas féminine. Et aussi,
on ne peut pas tout avoir.
On ne peut pas tout avoir. Il faut partager un petit peu. C'est une douleur qui survient plus volontiers la nuit. Par contre, elle répond aux mêmes médicaments.
Ah oui, donc c'est même traitement dans les deux cas. Et la céphalée de tension?
Alors la céphalée de tension est une céphalée un petit peu particulière. Donc c'est une céphalée beaucoup plus sourde. Elle s'installe plus longtemps, elle dure plus longtemps, elle est d'intensité plus modérée. Elle est rarement d'un côté de la tête, elle prend plus volontiers toute la tête. Et elle a des caractéristiques plutôt décrites par les patients comme étant un étau, un broiement, un serrement, un chapeau serré. Rarement un caractère pulsatile, elle n'est pas majorée par l'effort, il y a pratiquement jamais de photophobie, il y a peu de nausées. Donc les caractéristiques en sont très différentes maintenant. Il y a quand même une importante intrication entre les deux. Pourquoi ? Parce que les migraineux, ce sont souvent des patients stressés ou sujets à des stress ou anxieux, et que l'anxiété provoque de la tension nerveuse, et que la tension nerveuse provoque des céphalées de tension. Et puis, il est vrai qu'avoir mal à la tête, ça stresse, et donc on est dans un engrenage terrible, et qu'on a assez fréquemment des patients qui ont les deux. Et il faut faire la part des choses, parce que le traitement n'est pas le même, et bien sûr, peut être combiné.
Le diagnostic est-il difficile de ces différents types de maladies, même pour un neurologue, je dirais?
Le diagnostic est difficile dans le sens qu'effectivement, comme il est purement clinique, il faut être... J'ai des patients qui m'appellent parfois Sherlock Holmes. Je les embête. Ça prend du temps. Il faut vraiment prendre du temps. Il faut poser énormément de questions parce que c'est en additionnant nos critères qu'on peut approcher le diagnostic. Maintenant, c'est aussi un diagnostic de dialogue. C'est-à-dire qu'on explique au patient ce qu'on pense que ça peut être. On lui propose d'être attentif à tel ou tel symptôme, tel ou tel événement précipitant, par exemple. On lui demande de tenir un agenda de ces crises qui va permettre de les caractériser à chaque fois, et puis après de vraiment comprendre son profil. Et à partir de là, non seulement de ce qu'il aura déterminé comme facteurs qui lui sont personnels, mais aussi des différents essais de traitement qu'on lui a proposés, on dressera un profil personnel qui nous permettra d'approcher le mieux le traitement de ce patient-là. Donc c'est une approche de longue haleine. Et c'est vraiment un dialogue.
Un dialogue constant que vous avez avec le patient, oui. Et peut-être parfois avec d'autres médecins aussi.
Bien sûr. Avec le généraliste en priorité absolue, oui. Puisque c'est lui quand même qui revoit le patient régulièrement. Et puis les autres intervenants si nécessaire. Et si le patient a besoin de soutien parallèle, que ce soit de la kinésithérapie, de la sophrologie ou des techniques de relaxation, on est en contact aussi, c'est évident. C'est vraiment multidisciplinaire.
Marie-Thérèse a eu des migraines toute sa vie. Elles ont perduré après la ménopause. Elles étaient accompagnées de vomissements. Elle a été sauvée grâce à un médicament qui lui a changé la vie, nous dit-elle. Nelly, vivre avec un fumeur invétéré peut-il être la cause de migraines permanentes? Julie, les médicaments en vente libre contre la douleur ne sont-ils pas dangereux et ne faussent-ils pas, d'une certaine façon, le diagnostic des migraines ou autres céphalées? Arthur, des douleurs aux trijumeaux peuvent-elles être considérées comme passagère ou comme migraineuse? Dominique souffre des migraines dues à des surcharges du foie. Tout ce qui intoxique le corps peut provoquer des migraines. Le généraliste se contente de prescrire des antidouleurs ou envoie chez un neurologue. On reste au niveau du symptôme. Il n'y a pas de recherche en amont pour savoir d'où vient le problème. On peut se tourner vers des groupes de patients, mais il faut une réflexion de fond. Nous allons y revenir avec vous, docteur, revenir sur l'origine de ces crises et parler bien sûr du quotidien avec notre invitée Françoise Lefebvre-Brassy. Et avec vos questions aussi au 02 737 26 06.
Cœur de loup. 02 737 26 06.
Parle tant tout le temps. Juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Et quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululer sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie. Est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Et les cifres, les skis, sous mes bordées d'amour, je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire, même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle, et le crime est si gai. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime.
Philippe Lafontaine et Cœur de Loup, il est 10h35, vous êtes à l'écoute de La Première, Tout Autre Chose, jusqu'à 11h30, nous parlons des céphalées dans cette émission, avec vos questions 02 737 26 06 ou par courriel toutautrechose@rtbf.be. Tout autre chose écrit en un seul mot. Vous pouvez également nous envoyer un message par SMS au 30 51 50 centimes. Le message, si l'on reprend les témoignages qui nous ont arrivés, je reprends par exemple le témoignage de Julie. Les médicaments vente libre contre la douleur ne sont-ils pas dangereux et n'induisent-ils pas des difficultés de diagnostic? Je comprends moi ce que Julie veut dire, parce que moi quand j'ai mal à la tête, j'attends pas deux heures, je prends un paracétamol et puis basta. Donc, mais est-ce que dans ce cas-ci, je n'atténue pas des symptômes qui pourraient être importants à la définition de ce que j'ai?
Si, Julie a raison. La consommation trop régulière d'antalgiques provoque les céphalées. C'est assez bizarre a priori, et puis ça se comprend par un phénomène finalement comme une drogue chronique. Donc si vous livrez au corps un antalgique de façon régulière, il finit par s'y habituer, et dès que le taux diminue dans le sang, il reprovoque la douleur, comme ça il en redemande et vous en redonnez, etc. etc. Le gros problème, c'est que ça mène à une céphalée cette fois-ci, hein, pas une migraine, mais une céphalée qui est chronique, qui peut devenir vraiment quotidienne, pour laquelle évidemment on rentre dans un cercle vicieux terrible et le diagnostic est extrêmement difficile à faire. Le sevrage est très difficile à faire aussi. Il y a des patients qu'on doit hospitaliser avec perfusion pour assumer le sevrage. Une fois le sevrage fait, on revient un petit peu au stade zéro, on identifie de nouveau leur profil et puis on les traite de façon spécifique. Mais c'est vrai que si vous vous rendez compte que vous avez des maux de tête un peu trop fréquents et que ça vous arrive un peu trop souvent d'ouvrir la boîte de l'antidouleur, il vaut mieux consulter, il vaut mieux s'inquiéter, c'est tout à fait exact.
Maintenant, ce sont quand même des cas graves de dépendance à ce type de médicament.
C'est très fréquent.
C'est très fréquent.
C'est extraordinairement fréquent.
Mais enfin, vous imaginez, vous allez chez votre généraliste et vous lui dites, je suis complètement addict à ce type de médicament, il doit quand même vous regarder en souriant. Ou bien ils sont conscients de ce qui est...
Il y a de tout. Il y en a qui continuent à prescrire. Oui, madame veut dire quelque chose.
Non, je veux dire que nous sommes en général présents au salon Life une fois par an. Et là, nous voyons défiler des migraineux qui avalent un nombre d'antidouleurs.
Impressionnant.
C'est vraiment affolant. Et c'est
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément... Par exemple, quelqu'un qui prend du paracétamol très régulièrement pour des problèmes d'arthrose ne va pas forcément développer des céphalées chroniques. Et donc, ça prouve quand même qu'il y a aussi une sensibilité génétique à ça. On ne sait pas très bien où elle se passe. Alors, cette dépendance survient pour le paracétamol, très fort pour la codéine, et survient aussi pour la nouvelle classe, les triptans. On l'a déjà vu, des patients qui sont arrivés finalement en surconsommation de triptans, qu'on devait sevrer de la même manière que les autres. Mmh. Donc c'est vrai que d'une manière générale, il faut faire attention. Si on en prend trop fréquemment, il vaut mieux consulter. Mmh.
D'autres questions qui nous étaient arrivées. Arthur parlait de douleurs aux trijumeaux. Peuvent-elles être considérées comme passagères ou comme migraineuses?
Alors, le trijumeau, ben justement, c'est un nerf particulièrement important dans la migraine, mais aussi dans une autre pathologie qu'on appelle la névralgie du trijumeau. Donc, le trijumeau, c'est un très grand et très large nerf qui s'occupe de toute la sensibilité du visage et de la moitié antérieure du crâne, qui est donc fort large anatomiquement, comme vous pouvez l'imaginer. Mais à l'intérieur du système nerveux, il est aussi très largement répandu. Il a un gros relais, si vous voulez, au niveau de la moelle. Il descend très bas dans la moelle épinière jusque à peu près le deuxième ou le troisième niveau cervical, ce qui est fort bas pour un nerf crânien. Et puis, et ça c'est très important dans la genèse de la migraine, il innerve la méninge. Donc les méninges, ce sont ces enveloppes fibreuses qui entourent le cerveau, le cervelet, la moelle épinière, et qui se trouvent entre le système nerveux et la boîte crânienne. Ce sont des fibres, ce sont des fibres qui servent à protéger mécaniquement le cerveau, et qui sont très très fort innervées, donc très sensibles. En fait, on a pas mal au cerveau, mais on a mal aux méninges. En plus de ça, les méninges sont très 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 vascularisées. Elles ont beaucoup de grosses artères et de veines, et ces artères aussi reçoivent des terminaisons nerveuses du trijumeau. D'où l'importance de ce nerf dans la crise douloureuse de la céphalée d'une manière générale. Alors, il faut faire la part des choses entre la névralgie du trijumeau et la migraine. La névralgie du trijumeau, c'est une atteinte du relais, de ce petit relais dont je parlais tout à l'heure, qui se met à décharger de façon tout à fait erratique et tout à fait autonome, faisant des crises de douleur fulgurantes, aiguës, répétées, au niveau du visage, et qu'on peut parfois provoquer en touchant certaines zones réflexes du visage. Donc ça n'a rien à voir avec le processus de la migraine. Mmh.
Dans les questions qui nous étaient arrivées, aussi une question de Nelly. Vivre avec un fumeur peut-il causer des migraines permanentes? Non.
Alors, causer des migraines, non. Au niveau médical strict, non. Le tabac ne cause pas de migraines, mais chez un migraineux, fumer en soi peut éventuellement être un facteur favorisant parmi tant d'autres.
Maintenant, elle peut avoir mal à la tête, c'est pas forcément une migraine, c'est
voilà.
Ça aussi.
Maintenant, si elle vit dans une atmosphère très confinée, ça va pas arranger sa migraine.
J'espère que monsieur n'écoute pas.
Ou qu'il écoute.
Donc, on avait également Dominique qui souffre de migraines dues à des surcharges du foie. Elle dit que tout ce qui intoxique le corps peut provoquer des migraines. Alors, encore une fois, on ne parle pas à ce moment-là de migraines, mais de maux de tête ou de céphalées. Mais...
la migraine, elle a longtemps été... On a longtemps pointé ce pauvre foie du doigt en disant qu'il était responsable. Pourquoi? Parce que durant la migraine, il y a une irritation d'un centre dans le système nerveux qui est celui justement des nausées, des vomissements, de la transpiration, de l'aspect syncopal. Mais les nausées sont très prépondérantes et les vomissements aussi. C'est pratiquement 90% des gens qui en ont. Et donc, on a dit très souvent que c'était une crise de foie. Or, ça n'a rien à voir. Par contre, il est vrai que certains patients migraineux sont sensibles à des aliments gras, au chocolat. Ça fait partie des facteurs prédisposants. Mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment ça qui engendre les migraines, et certainement pas chez tout le monde. Ce sont des facteurs favorisants chez certaines personnes. Mais la migraine n'est pas une crise de foie, please.
Ne confondons pas, voilà. Donc. Brigitte a souffert de migraines, a découvert un traitement, la myothérapie, traitement basé sur les muscles de la nuque, des manipulations douces, sans prise de médicaments. C'est pratiqué par certains kinés en Belgique. Alors vous me disiez ici, il ne s'agit pas de migraines, mais de céphalées de tension.
Oui, 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 très vraisemblablement. Ou intriqués, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que ce sont des traitements qui peuvent être extrêmement efficaces parce que durant la crise de migraine, on a une tension musculaire de la nuque qui peut descendre jusque dans les bras. Hein. Ça se voit chez pas mal de patients. On a une tension de tout le muscle du cuir chevelu qui peut être concomitante. Mais si cette dame dit qu'elle a été tout à fait soulagée sans autre traitement, c'est manifestement qu'elle était plutôt victime de céphalées de tension à la base que de migraines vraies.
Françoise Lefebvre, Brassy.
Mais je crois effectivement en la méthode de relaxation, les chaînes musculaires, la méthode Mézière, l'ostéopathie. Personnellement, je crois que ça fait énormément de bien.
Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie des traitements adjuvants. Oui. Et il faut, au niveau du traitement comme au niveau du diagnostic, être très, très multidisciplinaire. Je suis tout à fait d'accord.
Tout à fait.
Mais je pense aussi qu'il faut dès à présent dire qu'il n'y a pas un traitement miracle et que chaque personne doit pouvoir mettre en jeu tout ce qui peut l'aider.
C'est l'association de plusieurs choses. Il y a le magnésium aussi.
Tout à fait.
Qui fonctionne.
Justement, Françoise Lefebvre-Brassine, vous avez été diagnostiquée comment et à quel moment, après avoir souffert, entre guillemets, pendant combien d'années, je dirais?
Certainement pendant une dizaine d'années, à partir de 14-15 ans jusqu'à 20-25 ans, on ne sait pas très bien ce qu'on a. On a mal de tête, on ne se rend pas compte. Et puis on entend parler, et puis on consulte, mais... J'ai mis longtemps à consulter, et longtemps à savoir, et à l'époque c'était alors le Cafergo, le Diedergo, c'était des médicaments qu'on employait à l'époque.
Qui étaient des antidouleurs, docteur ?
Non.
Des antimigraineux.
Des antimigraineux.
Antimigraineux. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on est migraineux. Et on essaye de prendre les choses en main au point de vue migraine. Mais ce qu'il y a aussi beaucoup, je crois, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui ont consulté il y a 10 ans, il y a 15 ans... Et ils n'ont pas trouvé de solution. Je crois qu'ils doivent reconsulter et aller revoir un neurologue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Je vis avec, j'ai vu un neurologue il y a 15 ans, ça ne m'a rien fait, tant pis. » Non, je crois qu'il est indispensable de reconsulter régulièrement et de surtout pas perdre courage.
Mais donc, pour vous, pendant 10 ans, ça faisait partie du package que vous pouviez avoir en tant que femme?
Oui, c'était des troubles de la vision, c'était au moment des règles... Ça datait pas d'hier, je ne suis pas toute jeune, mais oui, à ce moment-là, on ne faisait pas tellement attention.
Comment avez-vous évolué, vous, dans votre trajectoire de patiente? Est-ce que vous avez décidé à un moment donné que ça suffisait et que vous alliez prendre les choses en main, malgré peut-être le manque de réponse que vous aviez en face de vous?
Oui, je me suis rendu compte que, comme dit la doctoresse, c'est une association de plusieurs choses. Et alors vous écoutez, vous entendez, vous allez voir un médecin, et puis on vous parle de magnésium, de plaques orthopédiques, de problèmes de cervical, et puis en plus de ça, évidemment, vous avalez toujours un paracétamol ou un triptan en plus. Mais avec l'association de tout, vous arrivez à un soulagement, oui, mais c'est un long parcours, c'est très long.
Docteur, que se passe-t-il au fond? Vous parlez d'antidouleur ou d'antimigraineux. Ce sont donc deux médicaments totalement différents, si j'ai bien compris. Oui. C'est bien ça. Que se passe-t-il au sein du cerveau quand on donne un antimigraineux et qui va faire en sorte que la migraine va passer ou va évoluer?
Mais pour ça, il faut un petit peu définir ce qui se passe durant la migraine.
Oui.
C'est pas évident à définir dans le sens qu'on n'a pas encore élucidé vraiment ce qui initie la crise. Ça, on ne sait pas. En plus de ça, on a comme modèle expérimental et on ne parvient pas à reproduire particulièrement des migraines chez des patients migraineux. Donc, il se passe, je vais essayer d'être simple, mais c'est vraiment très compliqué. Il se passe en gros deux choses. D'une part, au niveau du cerveau lui-même, le cortex cérébral, donc l'ensemble des cellules nerveuses qui forment la couche du cerveau, il y a une modification électrique qui se propage à partir du moment générateur et qui évolue, qui s'étend progressivement de l'arrière du lobe occipital, donc le lobe de la vision, vers l'avant, et c'est concomitant à une modification du débit sanguin cérébral. Ceci est lié à ce qu'on appelle le système trigémino-vasculaire mis en jeu, c'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que les artères méningées étaient très innervées par les fibres du trijumeau. Il se passe une modification au niveau de ces artères méningées qui se dilatent très fort et qui libèrent des substances manifestement inflammatoires. On appelle ça l'inflammation méningée. Alors à partir de là, les fibres du trijumeau elles-mêmes conduisent la douleur vers les centres de la douleur en passant par le relais de la moelle et en arrivant au niveau de ce qu'on appelle l'hypothalamus, le thalamus et le cortex. Et donc l'information douloureuse et l'information des troubles sensitifs associés à la douleur se transmet au niveau du cerveau. Donc on a un phénomène de vasodilatation anormale de ces vaisseaux-là, on a un phénomène inflammatoire, et dans la participation du nerf trijumeau et de la vasodilatation d'ailleurs, on a mis en jeu d'une substance qu'on appelle la sérotonine, et qui a un nom scientifique, la 5-hydroxytryptamine, d'où le nom triptan d'ailleurs. Et les triptans agissent particulièrement sur ce type de molécules. Ce sont des médicaments qui ressemblent à la sérotonine et qui vont aller se mettre sur les petits récepteurs, un peu comme une clé qui rentre dans une serrure, et qui vont essayer de diminuer la vasodilatation et l'inflammation méningée, et qui vont essayer de diminuer, si vous voulez, la transmission douloureuse via le nerf trijumeau vers le cerveau. Donc, c'est une action spécifique. Ça permet parfois aussi de faire le diagnostic différentiel d'ailleurs. Si un patient a une migraine, enfin a une céphalée qu'on ne parvient pas vraiment à bien identifier, s'il ne répond pas du tout à quelques, parce qu'un seul ne suffit pas, quelques essais de triptan, on peut oublier la migraine. Alors l'ergotamine dont parlait madame tout à l'heure, qui était effectivement le traitement de choix avant que les triptans arrivent dans les années 90, a aussi une action manifestement sur la sérotonine, mais a une action sur le phénomène de vasodilatation méningée. Les antidouleurs, par contre, ça reste les antidouleurs classiques qui agissent sur les centres de la douleur. Il y a les anti-inflammatoires, qui agissent manifestement très bien d'ailleurs sur le phénomène inflammatoire. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, que la combinaison anti-inflammatoire triptan est très très synergique et très efficace.
Mmh. Est-ce qu'on peut se débarrasser à vie des migraines, ou est-ce qu'on doit vivre avec ?
Alors ça, c'est une excellente question. Non. Quand on est NAIT migraineux, on le reste jusqu'à la fin de ses jours.
Youpi.
Voilà. Donc, c'est un tendon d'Achille qu'on a, ça c'est évident. Ce que l'on peut faire, et de mieux en mieux maintenant, et je pense que l'avenir sera encore prometteur, c'est d'aménager sa pathologie. La première chose à faire, je crois la plus importante, c'est de l'accepter. Il faut vraiment accepter, parce que le mettre de côté, pas vouloir le voir, finalement empêche d'aller de l'avant et de faire les choses qu'il faut. Donc il faut l'accepter. Il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, reconnaître tout ce qui est personnel dans les facteurs favorisants, tout ce qui est personnel du profil migraineux, et donc trouver les traitements qui sont le plus spécifiques à chaque personne. Et à partir de là, il faut ménager sa vie. Il n'y a pas d'autre choix. Mais quand on est migraineux, on le reste.
Mmh. Même Lefebvre.
Je crois qu'il faut aussi l'accepter soi-même, mais la faire accepter par son entourage.
Ah oui.
Son entourage professionnel, sa famille, ses amis. Parce que souvent, on est pris pour des simulateurs.
En plus, oui.
Oui.
Alors justement, vous, est-ce que vous l'avez accepté maintenant?
Il a bien avec fallu que j'accepte, oui. Je vis avec, oui.
Et quand on dit que la migraine est handicapante pour celui qui la vit, est-ce que vous défendez cette thèse là aussi?
Je crois que pour les grosses crises, c'est vraiment handicapant. Moi, il fut un temps où pendant 2 jours, j'étais couchée dans mon lit et je ne savais rien faire. Maintenant, avec les médicaments, ou je ne sais pas, maintenant mes crises sont nettement moins handicapantes. Mais il y a beaucoup de gens qui sont 2 jours dans le noir, sans savoir bouger, ça c'est tout à fait vrai.
C'est ça, vous êtes en contact avec d'autres migraineux, avec la Ligue contre la céphalée, la Ligue belge contre la céphalée. Alors, quels sont les points communs, je dirais, entre toutes ces personnes dans leur quotidien? Est-ce que, justement, au niveau du travail, c'est quand même relativement accepté aujourd'hui? Parce que vous dites, 2 jours parfois à rester dans votre lit, ça fait aussi 2 jours d'absence
Ah oui, c'est une des causes, c'est une énorme cause d'absentéisme.
C'est une première cause
d'absentéisme. Oui, ça coûte
après
très très cher.
Ouais.
Et malheureusement, les médicaments, bon, maintenant, ces fameux triptans, il y a des génériques, ils deviennent moins chers. Mais jusqu'il y a un an, ces médicaments coûtaient très très cher.
C'est une consommation de médicaments à vie, donc. Est-ce qu'il y a un remboursement?
Ben justement, non. Les triptans, jusqu'il y a un an, parce qu'ils sont maintenant passés dans le domaine public, coûtait une fortune.
Sauf, je dis tout de suite, le triptan par voie sous-cutanée.
Oui, ça c'était le seul qui était remboursé par la mutuelle, la piqûre.
Donc,
mais
12
par an, pas beaucoup.
C'est vrai que c'est un problème économique majeur, mais le portefeuille n'est pas le même. Y a donc, on l'a dit, 75% des gens qui sont vraiment altérés par leur migraine, dont 10% alité certainement. Il y a effectivement une répercussion économique par absentéisme qui est considérable, mais ce n'est pas le même portefeuille que celui qui va rembourser les triptans.
Non,
donc
oui,
le
personne.
Problème est toujours le même.
C'est ça.
Bon. D'un autre côté, en gérant de mieux en mieux, donc il y a différents types d'approches, on l'a dit, il y a les traitements de fond, on n'en a pas encore parlé, on peut arriver à une consommation de triptans qui est relativement raisonnable. Alors c'est vrai que c'est un médicament qui coûte cher, mais enfin bon, qui coûte cher à sa mise en place aussi. Les génériques arrivent petit à petit, ça c'est toujours le même débat sur les génériques. Sont-ils aussi efficaces ou non? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il est moins efficace. Je dis ce que les patients me disent. Moi, ça c'est un autre débat, on ne va pas rentrer là-dedans. Chacun, de toute façon, les triptans n'ont pas... Il n'y en a pas un qui est vraiment supérieur à l'autre d'une manière générale. Les patients sont invités à les essayer et à reconnaître celui qui
s'adapte le mieux
à sa personne.
On va revenir sur chacun de ces éléments. On va répondre aussi à d'autres questions. Vous me faisiez signe pour parler des enfants. Et c'est vrai qu'on a des questions par rapport à ça. Et notamment la question de Aline, dont la petite fille souffre régulièrement de céphalées. Elle ne sait pas si elle doit dire migraine ou pas dans ce cas-ci. Mais lorsqu'elle en a parlé à son pédiatre, le pédiatre lui a répondu que c'était probablement psychosomatique. Elle se demande si c'est effectivement psychosomatique. Et c'est une réponse qu'on a régulièrement quand on parle d'enfants qui ont des maux de tête ou qui souffrent de maux de tête. On verra que c'est pas forcément le cas et que c'est à prendre très très au sérieux. On y reviendra après les informations de 11h. On reparlera aussi des traitements de fond et éventuellement d'autres types de traitements que des auditeurs ont essayé qui vont fonctionner chez eux. Vous dites qu'effectivement il y a toute une série de choses à côté qu'il y a moyen de faire afin d'aider un migraineux ou une personne souffrant d'autres types de céphalées à vivre avec ces céphalées. Nous reviendrons bien sûr sur tout cela avec vos témoignages, Vincent, des migraines très fréquentes, troubles de la vision, picotement des membres, jusqu'à la paralysie d'un côté. Il devait rester dans le noir absolu pendant 48 heures, jusqu'à 25 ans. Il a dû vivre avec, à la naissance de son fils, il accompagnait sa femme à des séances de sophrologie et il a appliqué cette méthode aux premiers symptômes de sa migraine. Cela a été très efficace, nous dit-il. Il ne va plus jamais voir son médecin. C'est une libération pour lui. Josepha, une migraine peut-elle se placer sur les dents? Et on a justement eu un dentiste qui a réagi. On peut avoir des maux de tête dans les fosses temporales, souvent confondus avec des migraines et dû en fait à un problème de contact entre deux mâchoires. Ces troubles se soignent très bien. On verra avec vous, docteur, s'il y a moyen de diagnostiquer ça aussi facilement. Et si c'est une réalité, on comprend aussi la complexité des migraines quand on lit tous les témoignages qui nous sont arrivés. Certains nous parlent également d'hypnose. Nous allons y revenir après les informations de 11h. Pour vous y conduire à ces informations de 11h, Bernard Lavillier et Le Venin.